Bonsoir Charline.
Bonsoir, merci pour ces informations. Vous savez, on n'est pas seul dans ce studio, nous sommes, figurez-vous, au 105. Est-ce que le public est là?
Ça fait beaucoup de monde.
Ah oui, il est là. On va donc pouvoir commencer. Allez, voici comment nous avons préparé cette émission ce matin.
Salut Charlie.
Alors, j'ai les derniers sondages.
Ah,
bah, les grosses têtes sont toujours devant nous.
Ah, moi j'aime bien écouter les grosses têtes, moi.
Pardon ?
Non, enfin, quand j'étais petit, quoi.
Ah oui, bah, je préfère, oui. Mais alors, je pense qu'on peut gagner encore pas mal d'électeurs.
D'auditeurs.
Ah, d'auditeurs, oui. Enfin, je veux dire, à capter.
Oui, comment s'y prendre, alors ?
Ah bah, moi j'ai un plan.
Bah, vas-y alors.
Alors, on va essayer de se renseigner sur le fonctionnement de l'ennemi.
Oh, c'est bon, ça, mais comment on fait ?
Alors, moi, je veux bien aller à l'enregistrement des grosses têtes.
Mais Thomas !
Non, mais pour voir, pour découvrir, parce que je connais pas bien l'émission, c'est l'occasion.
Non, tu sais quoi, je vais inviter quelqu'un de là-bas.
Ah oui, c'est bon.
Claude Sarraute. Bah non, pourquoi ?
Ah bah parce que moi j'aimerais bien la rencontrer.
Ah bon ?
Eh bah oui, parce qu'en fait c'est la chroniqueuse dont Ruquier disait toujours qu'elle buvait, alors que moi je suis sûre que pas.
Ouais.
Eh bah alors j'aimerais échanger des sentiments d'exclusion avec elle.
Mais on avait de qui alors ?
Ah bah j'ai pensé à Isabelle Mergault.
Ah oui, ça c'est une bonne idée.
Et elle va nous livrer des secrets.
Non, elle va nous livrer les secrets.
Silence, ça va, c'est malin Guillaume.
Moi j'aime bien Isabelle Mergault, parce qu'elle fait toujours des blagues avec Pierre Bénichou. Et avec Stevie Boulet, et avant c'était avec Jacques Martin, avec Jean-Yann.
Mais Thomas, mais je croyais que tu connaissais pas.
Non, mais c'est ma voisine, elle est branchée sur RTL, c'est relou.
Mais t'habites au même endroit depuis la mort de Jean-Yann ?
Non, mais toutes mes voisines ont toujours écouté RTL depuis 15 ans, c'est assez pénible.
Merci Thomas. Bon, alors vous avez compris la stratégie pour Isabelle Mergault.
La stratégie.
Ah, j'en peux plus là.
Ok, ça va, je m'excuse.
Donc, vous l'observez, puis vous apprenez. Comme ça, dans 15 ans, on sera devant les grosses têtes.
C'est bon.
Parfait, comme ça, à ce moment-là, j'écouterai plus.
Oh non, mais j'en peux plus vivement le public du 105. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui met une beigne à l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir avec un cocard à 18h. Oh, chiottes les sondages! Et pourtant, la campagne est pavée de votes utiles et de votes cachés. Mais cachés de quoi? Bah, des sondages qu'on regarde malgré tout pour échafauder ces votes.
Non, la stratégie est excellente.
C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
Vous bossez pour Monsanto, Goldman Sachs ou pour Lafarge qui collabore avec Daesh. Bref, vous bossez pour un salaud. Oh là là, quel tard! Alors comment réagit votre entourage?
Son père, ce qu'il aime, c'est les hommes d'affaires, tu vois, les vrais businessmen, un peu à la Bolloré.
Je vais décéder.
Comment ça se passe l'activisme chez les feignasses? Ça change le monde en portant des t-shirts Che Guevara.
C'est pour la pétition.
La pétition?
Oui, la pétition pour faire canoniser les Didi.
Ah bah non, merci.
Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui dont la photo est partout dans la presse belge ce matin, sous le titre « Du glyphosate dans ses urines ». Voici celui qui va devenir célèbre pour avoir fait pipi dans un tube. C'est Alex Vizorek.
C'est vrai, et qui est à côté de moi sur ces photos? C'est vous, Charline Vallaud-Laguerre. Et la belle équipe qu'on a concoctée aujourd'hui pour notre invité, 17h20, celui qui est passé de F2 à W9 sans jouer à combat naval, c'est Thomas VDB. Bonjour.
Ouais, bonjour à tous.
Bravo.
Alors moi, aujourd'hui, comme je ne sais toujours pas pour qui voter, eh bien, je vais vous expliquer le fruit de mes réflexions hier à l'issue de l'émission politique.
Très bien, 17h30, il y a du soleil, c'est donc un temps à lui donner envie de sortir. Méfiez-vous donc si vous voyez quelqu'un s'approcher de vous avec son micro et son bon sens. C'est peut-être Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charles, bonjour à tous, merci beaucoup. Existe-t-il un vote utile? C'est ma question du jour, j'ai rencontré des citoyens convaincus que oui, et ceux qui pensent l'inverse...
Les autres, ils vous racontent des saucisses.
Ils racontent des saucisses. La version anti-vegan, ils racontent des salades en fait.
Et 17h40, celle qui lit sur la terrasse des cafés, parce que oui, elle aime aussi la littérature, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour. Alors, justement, comme il y a beaucoup de terrasses, j'ai eu le temps de lire deux livres.
Très bien. Et 17h55, il joue de la guitare et se balade sur les routes de France. Chaque semaine, le gitan de cette émission, Frédéric Asse de la Frometas, alias Frédéric Fromet.
Et voici celle qui a tout annulé pour nous. Vous êtes actrice, réalisatrice, scénariste et désormais auteur de romans. Vous avez joué dans Les hommes préfèrent les grosses ou dans Prof. On vous doit le scénario de Meilleur espoir féminin. On vous doit ce film Je vous trouve très beau. Vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre, dont L'amour sur un plateau. Vous êtes aussi femme de radio. Vous avez débuté chez Bouvard. Vous êtes un pilier de la bande à Ruquier. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Isabelle Mergo.
Alex Bizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Isabelle Mergo dans ce studio 105 de la Maison de la Radio.
Bonjour.
Vous êtes passée par France Inter avec Laurent Ruquier.
Ah oui, je suis passée. Oui.
Rien à cirer. Isabelle Mergo, vous avez écrit un roman qui s'appelle Un escargot tout chaud, paru chez Grasset. Alex Bizorek, Juliette Arnaud, je vous laisse... cuisiner notre invité.
Oui, ben, alors, votre éditeur dit du rire où les Marx Brothers auraient croisé Woody Allen. Ah,
c'est lui qui a dit ça. Hein.
Attention
c'est du lourd. Hein.
Non, mais c'est du lourd. Mais c'est parce qu'il y a de l'absurde comme il y a du vrai écrit. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'en faire un roman plus qu'une pièce de théâtre, avant peut-être que ça le devienne. Parce qu'il y a des vraies répliques, peut-être, qui doivent être lues.
Plutôt c'est quoi la question
plutôt qu'être entendu. Non, mais...
Répondez oui quand vous savez pas. Moi je fais ça.
D'accord, merci. La vraie question c'est comment l'auteur de théâtre passe à l'écriture d'un roman. Quelle est la plus-value de l'écrit d'un roman?
C'est la liberté. Je l'avais jamais fait. J'étais en Normandie, il pleuvait beaucoup. la télé ne marchait pas, ça captait pas. J'avais pas Internet, j'avais pas le téléphone. Et je me suis dit tiens, j'avais cette petite idée, cette petite histoire dans la tête. Je me suis dit tiens, je vais essayer d'écrire un roman. Et puis petit à petit, c'est pas une ambition comme ça qui vous tombe le matin, c'est un enchaînement de phrases qui viennent. C'est une écriture romanesque. Alors, la plus-value, c'est que je fais ce que je veux. Parce que quand vous écrivez un scénario ou une pièce de théâtre, vous êtes assujetti au temps. Il faut que ça fasse 1h30, il ne faut pas que ça coûte trop cher, etc. Là, si je veux faire passer des chameaux, il n'y en a pas. Mais je peux. C'est la liberté totale.
Vous avez joué avec Sylvie Vartan, donc vous en avez vu passer. Mais on la salue. Mais
on coupera.
Le pitch, on coupera. Le pitch de l'histoire, parce que voilà.
Le résumé. C'est beaucoup plus facile à dire.
Parce que mine de rien, il y a une unité de lieu qui peut s'avérer théâtrale. On est dans la bijouterie de Rose.
Oui, alors oui, évidemment, dans une pièce de théâtre, il y a une unité de lieu. Et par la force des choses, puisque c'est un braquage.
On est tranquille, on le dit. Parce qu'au départ, il y a quand même une grande présentation des choses dans la bijouterie.
Parce que c'est un roman.
Ben oui.
Donc il y a la psychologie des personnages.
On installe pas mal de personnages qui auraient peut-être pas dû se retrouver au même endroit au même
Absolument.
Moment.
Absolument. Il y a que des dépressifs, des gens qui ne tiennent pas spécialement à la vie.
Et donc ils s'en fichent d'avoir un braquage en plus.
Et voilà. Et donc le mec qui dit la caisse où je te bute, la bijoutière elle dit buter. Et puis tous les gens qui sont là dans la bijouterie, tiennent pas plus que ça à la vie pour des raisons personnelles. Et donc, il a de prise sur personne et il regrette amèrement d'avoir choisi cette bijouterie.
Cette bijoutière, c'est Rose, que quelqu'un qui s'ennuie un peu dans la vie, qui est pas très heureuse, qui a des rêves, mais elle a jamais été au bout des choses.
Voilà, c'est une Bovary.
Voilà, un peu. D'où la Normandie.
D'où la Normandie.
Vous m'avez dit que vous étiez en Normandie qu'il pleuvait.
Oui.
Ah, oui, d'accord. Non, d'accord. Sans lien.
Oui.
Je
dis oui.
Oui, ça c'est bien.
On va aussi laisser Juliette Arnaud développer dans sa chronique.
Mais
je sens qu'il y a une incompréhension.
Est-ce qu'on a compris l'histoire dans le public?
Oui.
Il n'y a pas de chameau. Il n'y a pas de chameau du tout de toute façon.
C'est dans une bijouterie tenue par Rose et Philippe qui ne se parlent. Enfin, Philippe n'aime plus sa femme. Elle est toujours amoureuse de lui, mais bon, voilà, il a un total mépris pour elle. Et puis, il y a quelques personnes dans cette bijouterie. Il y a une vieille dame qui vient fleurir la tombe de la mère. Oh là,
mais ça va. C'est ouais, pas, non, mais c'est pas
c'est,
sympa.
C'est pas, ouais, c'est pas intéressant. Hein.
Est-ce que vous l'avez lu, ce livre?
On va en parler tout à l'heure, Isabelle Mergo.
C'est très clair à la lecture, je vous le dis.
Voilà, et comptez sur nous pour faire une bonne promo de bouquins. Sachez tous les invités qui écrivent des livres passés par chez nous. Parce que vraiment, le masque et la plume, c'est des fois un peu surfait. Venez chez nous parce que nous, on vous le vend bien, le bouquin.
Merci. C'est d'accord, l'idée. Donc je vais me taire.
Bah, c'est okay. Entre les Marx Brothers et Woody Allen, quoi.
Ouais, voilà. Isabelle Mergo est avec nous jusqu'à 18h. Un escargot tout chaud. Vous avez compris avec le résumé de l'histoire.
Ah non.
Et puis un escargot tout chaud.
Ça, non, mais je vous expliquerai le coup de l'escargot.
Ouais, Juliette va nous en parler tout à l'heure. Il y a Thomas VDB et bien sûr Alex et Guillaume. On est chaud comme un escargot. Why did I get you? Ce public du studio 105, car nous sommes en direct depuis la maison de la radio en compagnie d'Isabelle Mergo, la romancière aujourd'hui, avec un escargot tout chaud paru chez Grasset. Vous êtes aussi à l'affiche du film de Gérard Jugnot, c'est ça?
Oui.
C'est beau la vie quand on y pense, et oui, c'est un film qui sera en salle mercredi.
Voilà.
Voilà.
Le pitch du film peut-être?
Oui, tout à l'heure. Dites-nous qui est là pour entourer Isabelle Mergo.
Vous avez entendu rire Juliette Arnaud, vous entendez la concentration de Thomas VDB, et attention, il est caché dans le buisson, c'est Guillaume Meurice.
Et l'information est aussi dans le buisson.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Le journal de presque 17h17. J'irai jusqu'au bout.
On commence par les titres.
Hier, sur le plateau de l'émission politique de France 2, l'enseignante qui a débattu avec Emmanuel Macron a nié être soutien de François Fillon alors qu'il semblerait bien qu'elle le soit.
Oui, notez que c'est un plateau où chaque semaine en fin d'émission, une journaliste nie être humoriste alors qu'il semblerait bien qu'elle le soit.
Pas comme vous parlez. En déplacement à Strasbourg, François Fillon a été enfariné.
Ah, chacun son tour d'être roulé dans la farine.
Il y aura des brèves, bien
oui,
sûr.
Oui, des brèves. C'est pour toi, public, les brèves. Je ne sais pas si je vais t'en donner beaucoup. Hein.
Hier soir, c'était l'émission oui. politique avec Emmanuel Macron.
Oui, à cette occasion, moi, j'ai décidé de faire un petit jeu, de boire un coup à chaque fois que j'entendais Macron dire « pardon de vous le dire » ou « et en même temps
». Et résultat ?
Eh ben, je me serais senti mieux si j'avais passé la soirée avec Juliette Arnaud. Tout honnêteté.
Hier, donc, lors de cette émission oui. politique, Barbara Lefebvre a été présentée comme enseignante en histoire géo.
C'est vrai, mais ce qu'elle a omis de dire, c'est son appartement au Comité National France Solidaire avec Fillon.
Et quand Léa Salamé lui demande si elle est soutien, elle répond... Ah bah pas que je sache.
Elle nie, ça c'est un réflexe de fioniste, vouloir ressembler à son idole.
Et on a une pensée émue pour elle d'ailleurs, qui a dû retourner donner cours ce matin au collège.
Oui, elle a dû dire « Dylan, tu regardes sur la feuille de ton voisin ?»« Ah non, pas que je sache », lui aurait répondu l'élève.
Le plus étrange...
C'est peut-être que ce soit une enseignante, oui, une fonctionnaire qui soutient Fillon.
Mais oui, je lui propose de discuter de la préélection avec le collectif Les Sans-Papiers avec Marine Le Pen ou Les Chauffeurs de Taxi avec Emmanuel Macron.
Toujours dans cette émission politique, le débat en face-à-face a opposé Emmanuel Macron à Bruno Retailleau, le porte-parole de François Fillon, qui était là pour lui poser une question pertinente. Voilà ce que ça donne.
Je voudrais commencer par une petite histoire. C'était chez moi en Vendée. C'était un week-end et j'accompagnais à l'époque mon grand-père qui m'apprenait à chasser. Et à un moment donné, il y a un vol de bécassines. Je vise, je tire et je loupe. Et mon grand-père me dit, mon petit, méfie-toi de bécassines, ça vole en zigzag. Quand c'est dans le zig, il faut tirer dans le zag. Et je trouve que vos positions successives, ça évoque un peu pour moi ce vol des bécassines de bon enfant.
Ne passons pas à côté des choses simples.
À droite. Eh oui, Bruno Retailleau, c'est pas facile de passer faire de l'humour derrière Bruno Retailleau. Hein,
c'est émouvant.
À droite, en déplacement à Strasbourg, François Fillon a été enfariné.
Mais on espère tous qu'un de ses amis va donc lui offrir un nouveau costume.
Et sur Facebook, Nicolas Sarkozy appelle à faire fi des états d'âme en votant François Fillon.
On va pas se faire chier avec une mise en examen, bon Dieu.
Au Front National à présent, oui, selon le Canard enchaîné, Marion Maréchal Le Pen songerait à arrêter la politique.
Ah, qui est un brin de déception.
De toute façon, il en reste toujours un au Front, oui, National qui assure le spectacle.
Merci Gilbert Collard, invité hier matin chez Audrey Crespo-Mara sur LCI. Il lui a dit ce qu'il pensait de ses qualités d'intervieweuse.
Vous pensez toujours que vous êtes sur écoute ou on vous a expliqué comment fonctionnait Siri?
Alors écoutez, je m'excuse, hein, Dieu sait que j'ai envie d'être courtois avec vous, mais faites-moi plaisir, ne soyez pas aussi abruti qu'Hanouna.
Bam! Ouais, sauf qu'Hanouna, il écoutait LCI. Et le soir, pendant son émission, il a passé un coup de fil à Gilbert.
Oui!
Gilbert!
Oui!
Comment ça va? C'est Cyril Hanouna!
Ah non, ce n'est pas M. Collard à l'appareil.
Ah ouais, si je t'ai reconnu, tu me prends vraiment pour un con, toi!
Ah oui, bravo!
Eh ben, ça va, mon bébé!
Enfin, un aveu, mon cher Cyril!
Voilà, bonne ambiance, gros clash entre les deux.
À Brest, 4 mois de prison ferme pour le vol d'un sandwich à 2 euros.
Le con, on l'aurait jamais chopé s'il avait détourné 900 000 euros d'argent public. Les cons, ça vole trop petit.
Cinéma à présent, le film français à bras ouverts crée la polémique pour beaucoup de critiques, mais aussi d'internautes, le film serait raciste.
Oui, le réalisateur Philippe de Chauvron a tenu à se défendre en affirmant que...
sa femme était noire et musulmane, si j'étais raciste, elle m'aurait quitté.
Donc voilà, Philippe de Chauvron est marié à la meilleure amie de Nadine Morano.
Allez, des brèves.
De brèves, Béziers ivre, il menace sa compagne avec un tire-bouchon.
Oula, oui, quand même.
Ah oui, quand on commence à confondre sa femme avec une bouteille, c'est qu'on introduit.
La dernière?
Clermont-Ferrand, il se fait passer pour un enseignant et récupère les sujets de son examen. Décidément, les profs, tout est dans l'usurpation d'identité.
Merci Alex. Nous sommes en direct du studio 105 de la Maison de la Radio sur France Inter en compagnie d'Isabelle Mergo qui nous accompagne. Premier sujet avec vous, on est censé être vacciné face au sondage, mais le vote utile et le vote caché, ils n'ont d'existence que si on regarde les sondages. Alors déjà, voici une méthode, hein, c'est service public, donc on vous rend service, hein. Voici cette méthode efficace pour trouver où se planque ce fameux vote caché.
Gamin ! Gamin ! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Gamin! Allez, viens, là! Allez! On va pas rester seul dans ce bois, hein!
T'as éteint un peu ta lumière.
Apparemment, il lui a mis la main dessus, on va te cacher. Benoît Poulvord, dans cette arrivée près de chez vous. Isabelle Mergo,
oui,
comment vous vous sentez, vous, face à cette incertitude totale de ce qui nous attend au mois de mai? Est-ce que vous regardez, vous foncez droit vers vos convictions ou vous êtes de ceux qui se prennent la tête en stratège pour penser vote utile, si le vote caché où va-t-il? Comment vous réagissez face à ça, face à au mur qui nous attend?
Oui, le mur... je suis contre le vote blanc. Ça, c'est...
Ah oui,
oui, parce que parce que je pense que ça ne sert à rien. Bon, voilà. Donc, je vais aller voter.
Ça vaut pas mieux que l'abstention, vous voulez dire, par exemple?
Non. Non. Bah non, bah alors quitte à se déplacer, à la limite, bon, le mec il est en vacances, il se dit qu'il faut que je revienne voter, etc. À la limite, on peut comprendre qu'il aille pas voter, bon, bref. Mais se déplacer jusqu'à la mairie pour mettre un bulletin blanc, je vois pas le. Bon, bref, ça,
c'est au moins cheminade.
Ça, hein?
Prenons au moins cheminade.
Oui. Ça, oui. Ça n'engage que
déjà.
Moi.
Donc ça, c'est déjà un truc de sûr.
Je sais que je vais aller voter. Alors, il paraît que c'est au dernier moment qu'on se décide finalement, qu'on peut avoir des convictions, puis que au dernier moment, dans l'isoloir. Mais je crois que ça participe de la même état d'esprit que quand on attend un enfant et qu'on est sûr qu'on va l'appeler Alexandre, et puis il arrive, et puis finalement on l'appelle Lucas.
C'est un prénom pourri, Alexandre.
On peut changer d'avis, on peut radicalement changer d'avis. Enfin, pas radicalement, mais on peut.
Nuancer son vote.
Oui.
Ça veut dire que c'est un instant, parce que on le compare aussi, vous le disiez, au prénom de l'enfant. Ça veut dire que dans l'isoloir, on a vraiment le sentiment de faire un
vide, oui, mais je pense qu'il porte très bien son nom. C'est-à-dire qu'on s'isole réellement et on s'isole de tout peut-être ce qu'on a pu entendre. On digère tout en quatrième vitesse, parce qu'on va pas rester 3 heures non plus. Et voilà. Et là, d'un seul coup, on met l'enveloppe,
Jean Lassalle, bam.
Donc, c'est-à-dire, si je résume, on peut arriver avec des convictions.
Je crois.
On arrive dans l'isoloir.
Enfin, des convictions.
Et puis, on a un sursaut de conscience.
Oui. Des convictions, je sais pas si.
Et là, c'est le vote utile qui prend le. Quand vous dites on change éventuellement d'avis, c'est peut-être se dire, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie?
Ou la folie. La révolution passe.
Peut-être, non, oui, mais là, ces élections sont tellement, ça manque tellement. À part moi, Mélenchon qui me séduit énormément parce que c'est quelqu'un qui est, il y a du sang qui circule dans les veines, quoi. Il est debout, il y croit, il est 10 fois plus jeune qu'un Macron, quoi.
Ah bah voilà, vous allez voter Mélenchon, voilà. Vous êtes une idée, hein. C'est
ça. Pas forcément, parce que dans l'isoloir, Nicolas Dupont-Aignan,
qui est debout aussi, lui, pour le coup. Moi, j'ai une question par rapport... parce que nous, Belges, on reçoit des grandes feuilles avec des grandes cases à cocher. Mais vous devez partir avec des bulletins dans l'isoloir. Est-ce que vous partez avec toutes les petites fiches?
Normalement, c'est obligatoire. Hein,
oui.
Bah, normalement, oui.
Ah, je sais pas.
Oui, oui, oui. Puis alors, en plus, quand vous êtes un petit peu reconnu, tout...
il vaut mieux.
Je prends tout, moi. Je prends tout et puis je mets tout dans l'enveloppe. Et puis...
Ah oui, alors ça, oui, alors...
Du coup, ça compte pas. Voilà, vous votez nul depuis le début, en fait.
C'est pire que le vote blanc.
Ouais, ouais.
Même si vous mettez 3 Mélenchon, ça marchera pas.
C'est le vote multiple. Aujourd'hui, dans ce studio, il y a Thomas VDB, et ça, c'est toujours un événement.
J'avoue que c'est vrai.
Léa.
Macron. Il n'est pas socialiste, il n'est pas communiste, il n'est pas capitaliste. On ne sait pas vraiment ce qu'il est. On ne sait pas et on n'a pas eu la réponse non plus hier, vraiment. Parce que je vous le dis, moi, c'est vrai que là, on est à un mois du résultat des élections et je reparle de ce dont on parlait à l'instant, mais je vous le dis franchement, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Je vous le dis franchement, à un moment, j'ai carrément pensé ne pas voter. Mais on m'a dit surtout pas, ne pas voter, ça fait le jeu du Front National. Alors j'en profite pour adresser cette petite astuce à tous les gens qui prévoient de voter Front National. C'est pas la peine d'aller voter, restez chez vous, puisqu'en ne votant pas, vous ferez le jeu de ceux pour qui vous vouliez voter.
Brillant, bravo.
Alors, mais hier, j'ai quand même regardé l'émission politique sur France 2, déjà pour voir Charline, parce que quand je suis avec des potes et qu'elle passe à la fin de l'émission, je peux faire « Eh, je te connais !» Ça fait son petit effet. Et puis surtout, c'est autre chose, mais parce que tout simplement, j'aime bien regarder France 2. Je trouve que c'est une chaîne menée de main de maître. On ne le dit pas assez, mais Delphine Arnaud fait un boulot génial. Vraiment big up. Donc j'ai regardé l'émission politique, je vous dirais un petit peu dans l'espoir en fait de me forger politiquement, parce que je vous le dis, moi j'ai pas une très grande culture historique et politique, je suis vraiment nul même en argument dans les débats et les discussions politiques, au point que quand j'assiste à un débat politique entre deux personnes qui sont pas d'accord, grosso modo, je suis toujours d'accord avec la dernière personne qui a parlé. Voilà, c'est vraiment, s'il y a pas... Ah ben je suis ok avec toi en fait, et si l'autre il lui dit, non mais attends mais mon gars, qu'est-ce que tu fais de la grande bataille de 1930? Je dis, ah bon, il y a une grande bataille en 1930? Ah je dis, ouais, finalement je suis d'accord avec toi finalement. Et voilà, je change d'avis constamment, au fur et à mesure qu'il y en a qui amènent de nouveaux arguments. Alors, comme je sais pas vraiment où je campe, que je change d'avis tout le temps, j'avais fini par me dire, ben voilà, je vais voter pour quelqu'un qui me ressemble, je vais voter Macron. Mais comme je change vraiment souvent d'avis, hier je me suis dit, je vais quand même regarder l'émission politique avec Macron, comme ça, au cas où il me plaît pas tant que ça, je peux encore voter pour un autre. Et j'ai constaté donc deux choses sur Emmanuel Macron. Alors en un, déjà, il a vraiment une bonne tête. Ça, c'est sûr, il est vraiment sympathique, vraiment à sa tête, je comprends pourquoi ma mère veut voter pour lui. Et en deux, vraiment, je dirais, c'est vraiment le champion du monde de Tour du Pot. Vraiment, c'est le champion du monde de Tour du Pot. Le gars, il pourrait avoir un Big Mac dans la main et te faire croire qu'il est végétarien. Et nous, on serait, mais attends, mais tu peux pas être végétarien, t'as un Big Mac. Oui, mais je suis végétarien, mais les vaches, elles mangent de l'herbe et elles ruminent. Et donc, finalement, les vaches, voilà, oh, tu m'embrouilles, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... On se rend compte qu'il veut, il veut aussi, c'est quelqu'un qui ne veut vraiment froisser personne, ça c'est bien pour ça. On se dit même quitte à froisser des gens, il préfère toujours froisser des gens qui sont pas en costume. Ça revient moins cher en pressing, et c'est une façon comme une autre de faire des économies. Alors j'avoue quand même moi que j'avais un petit peu sous-estimé l'influence de Emmanuel Macron sur l'échiquier politique international. Vous vous rendez compte quand même que seulement 2 heures après avoir dit qu'il était prêt à intervenir en Syrie, Donald Trump a dit bon, écoute, je fonce, je fais confiance à Emmanuel Macron. Alors par contre, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il aime pas beaucoup qu'on dise que c'est l'héritier de François Hollande. C'est un petit peu embêté ça quand même, parce qu'il y a plein de gens qui travaillaient pour François Hollande qui se rallient à lui aujourd'hui, mais on sent qu'il a pas trop envie d'en parler. Hein, c'est un peu comme quand moi, quand j'étais en CE1 et que le premier de la classe, il arrêtait pas de me coller. Eh ben, je voulais pas trop traîner avec lui, mais j'en avais quand même besoin pour qu'il me prête ses exos de maths. Et voilà, il avait pas, vraiment, il avait pas besoin. J'ai dit, bon, ok, je veux bien que tu traînes avec moi, mais ne les bride pas trop. Hein, ça sert à rien. Viens pas avec moi quand il y a du monde autour. Voilà. Et vraiment, le premier de la classe, je ne me servirai que des exos de maths. Et il y a une chose qu'il n'aime pas beaucoup non plus, Emmanuel Macron, c'est quand on amène François Ruffin en face de lui. Ça, j'ai remarqué, c'est pas son hobby, vraiment. François Ruffin, c'est le réalisateur de Merci Patron, qui est vraiment ce qu'on appelle un film utile. Et vraiment, Macron n'aime pas beaucoup quand François Ruffin relève que dans son programme, il n'y a jamais les mots dividende, banque ou patron. Ce qui, faut bien le dire, en 2017, dans un programme politique, est la preuve que t'es quand même un tout petit peu à côté de la plaque. Parce que ne pas être capable de relever que la majeure partie de nos problèmes vient du fait que les grands patrons sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, ça relève pas de la politique, ça relève du bon sens. Alors je sais qu'il y en a qui pensent pas comme moi, qui vont dire « Oui, mais c'est les patrons, c'est normal qu'ils gagnent plus. » Juste, d'accord, c'est normal qu'ils gagnent plus, mais c'est pas normal qu'ils gagnent tout. Et en partant du plateau... Et en partant, du plateau, Bobo Gaucho, alors laissez-moi, c'est un sacré Bobo Gaucho, des merdias, évidemment, il y en a qui vont penser ça. Mais il faut reconnaître qu'en partant du plateau, hier, François Ruffin a dit à Macron, « Je vous attends dans les loges pour finir la discussion. C'est François Ruffin qui a parlé en dernier. C'est décidé, je vais voter François Ruffin.
» Merci Thomas Bédébé, d'autant plus que vous venez du Nord.
Absolument, je suis né dans la Somme, comme Emmanuel Macron.
Et que François Ruffin se présente aux législatives.
En plus.
Donc il y a moyen de voter pour François Ruffin.
Profitons-en.
Il y a du militant dans la salle, ça fait plaisir.
Il y, parce y, que y en a un, en tout cas, on l'entend assez bien. Je confirme qu'il est venu.
Tous les autres sont de droite.
Nous sommes en compagnie d'Isabelle Mergault, qui publie un roman, Un escargot tout chaud, paru chez Grasset. On va en reparler tout à l'heure avec Juliette Arnaud. En attendant, musique.
Où va l'eau, où va l'âme, et la sève, et les larmes, et va oui. Fontaine de lui,
Capitaine de lait, Camille, sur France Inter, en compagnie d'Isabelle Mergaud. Et à côté de vous, Isabelle, dans ce studio 105.
Chauffé à blanc.
Chauffé à blanc, d'ailleurs, si vous voulez venir voir. Vous pouvez voir sur franceinter.fr, car nous sommes filmés, c'est la modernité, on est tellement 2.0. À côté de vous, Guillaume Meurice.
Oui, eh ben, je vais vous parler de vote utile aujourd'hui encore, parce que beaucoup de gens sont indécis, il y a évidemment Thomas, beaucoup de gens dans le public aussi sont indécis, c'est vrai. Voilà, il y a Nuit Debout qui est venu avec son djembé, mais voilà, il y a beaucoup de gens comme ça indécis. J'entendais discuter avant de rentrer au studio 105, il y a une dame qui disait « J'hésite entre Giscard et Chaban-Delmas ». C'est vrai qu'on a un public assez âgé hein, aujourd'hui. Je me demande même si certains... Ouais. Là, ils entendent quand même un petit peu. Je me demande même si certains ne se sont pas perdus en allant à France Musique. Mais bon, le principe du vote utile, je vous le rappelle, c'est quand même pas compliqué. Il faut voter pour ce que disent les sondages. Okay, si vous êtes de droite, Fillon. Si vous êtes d'extrême droite, Le Pen. Et si vous êtes de gauche et que vous aimez le fist-fucking à l'ancienne, Emmanuel Macron. Okay, c'est simple. En tout cas, c'est ce qu'on nous rabâche tout le temps, du matin au soir. Est-ce que ça pose pas un problème? Je suis allé poser la question à des citoyens ce matin. Qu'est-ce que le vote utile?
C'est de voter le bon président.
Ah oui, mais alors comment faire son choix?
Alors moi, je vais vous dire une chose, ça va être très simple.
Ah.
Ça va pas plaire, mais c'est pas grave.
Ah mince.
Je suis Picard.
Ouais.
Je suis Damien. Donc vous savez pour qui j'ai ma préférence. Macron.
Vous votez Macron parce que vous êtes Damien? Et parce qu'il est Damien aussi?
Et d'une grande famille amiénoise.
S'il avait été de Bayonne, par exemple.
Non, c'est pas ma région.
Oui, donc non, alors là, attendez, parce que là, non.
C'est un supporter, oui, je sais pas.
Attendez, c'est pas le vote utile, là, c'est le vote futile. Je vous rappelle que l'élection présidentielle, c'est pas Interville, hein, les gars, attention, hein. Non, c'est vrai. Même si j'aurais bien vu un top à la vachette au moment du débat au milieu, mais bon, ça aurait mis de l'ambiance, mais c'est pas ça. Puisqu'on parle vachette, parlons ruralité avec un autre électeur qui n'aime pas un des candidats, qui ça?
Le grand, là, pas question. Là.
Le grand, c'est lequel celui-là, là?
La salle, non?
Jean Lassalle.
Ouais. Ah, celui-là, tu mets un képi, on dirait un SS, là.
Jean Lassalle, on dirait un SS?
Oh, ben, une petite casquette, là, plaf. Et puis, avec son accent, là.
Ben, il n'a pas tellement un accent allemand, du coup.
Oh, je sais pas ce que c'est, comment
il... Oui, c'est l'accent du sud-ouest, hein, moi je sais très bien ce que c'est. Alors, je veux bien qu'on pige pas tout à ce qu'il dit, mais il y a une limite, hein, parce que si Jean Lassalle est un SS, Bruno Gollnisch, c'est quoi? C'est un hippie, je ne sais pas, non, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a un mépris pour ceux qu'on appelle les petits candidats. Petits, mais comment?
Ils sont peut-être plus honnêtes que les autres, mais c'est difficile de voter pour eux.
Donc vous préférez voter pour des gens malhonnêtes?
Oh, peut-être pas malhonnêtes, enfin malhonnêtes. Oh, ils sont, de toute façon, en politique, ils sont plus ou moins tous malhonnêtes. Hein.
Ah ben, vous venez de dire que les petits, ils étaient honnêtes.
Les petits sont honnêtes, mais les gros sont moins honnêtes que les petits.
Mais quand même, vous votez pour les gros?
Oui, quand même.
Oui, quand même, voilà. Ouais. Quitte à se faire enfler, autant que ce soit par un professionnel. C'est la morale du jour. Ça pourrait d'ailleurs être la devise. C'est la devise du vote utile. Alors, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête d'un électeur. Écoutez celui-là.
Ce qu'il faut, c'est... Il faut qu'on marie Mélenchon avec Marine. On va les marier tous les deux. Ils iront très bien ensemble.
Il faut marier Mélenchon et Marine Le Pen.
Voilà, on marie Marine. Et ouais, tous les problèmes de la France seront résolus.
Donc là, vous hésitez entre Mélenchon et Marine Le Pen.
Moi, je veux les deux, moi. J'en veux pas un seul, je veux les deux. Et je voterai Fillon, voilà.
Alors, c'est vrai que vous voulez un mariage, Le Pen, Mélenchon, mais voter Fillon.
Voilà, ça.
Voilà, c'est pas simple, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas simple. Alors, je veux bien croire au sondage, mais comment ce monsieur est comptabilisé, en fait, dans les sondages? Soutien de Le Pen, Mélenchon, électeur de Fillon, c'est quand même un gars qui, au resto, doit hésiter entre une tarte à la fraise et un éclair au chocolat, et qui, finalement, prend une blanquette de veau, en fait. C'est vraiment pas simple pour lui, et c'est pas simple non plus pour cette autre électrice qui soutient le vote utile.
Moi, je pense que c'est bien de voter dès le premier tour utile. Hein.
Mais alors, ça veut dire qu'il y aura un vote inutile?
Non, mais j'avais voté initialement Monsieur Hamon pour les primaires.
Vous avez voté Hamon aux primaires et vous ne votez pas Hamon au premier tour?
Non. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Ça sert à rien de voter pour lui premier tour.
Pauvre Benoît, il se fait même lâcher par les gens qui ont voté pour lui à la primaire. C'est terrible. Ça m'étonnerait même pas que lui-même dans l'isoloir se dise non, le Hamon, je le sens pas. Non. Je sais pas, il est pas prêt. Je vais voter Poutou. C'est le doute. On en parlait tout à l'heure. Le doute de l'isoloir, c'est simple pour personne. Allez, concluons avec un dernier soutien du vote utile.
Faut voter utile. C'est-à-dire voter pour un candidat qui peut rallier.
Ça veut dire que vous êtes attentif au sondage quand même.
Attentif, faut bien lire, on lit les journaux, on écoute la radio, on regarde la télévision.
Je croyais que les sondages, ils se trompaient, moi.
Ben, ça leur arrive souvent. Hein.
Ah bah alors.
Alors
vous suivez un truc qui se trompe souvent?
Mais c'est pas ça que je voulais dire.
Ah, c'est
non,
quoi?
Je vais bien.
Bah non, voilà. Je suis chiant. Hein.
Le mot est faible.
Eh oui, c'est mon métier. C'est mon métier, être chiant et raconter des trucs pas sérieux. C'est mes deux points communs avec les instituts de sondage et tous ceux qui nous emmerdent avec le vote utile.
Merci Guillaume Meurice. Et rappelons que le vote utile est une notion toute relative, puisque pour certains, le vote utile, c'est voter Le Pen pour faire barrage à Macron maintenant.
C'est vrai. Ouais, c'est ça devient ça n'importe marche. Quoi.
Vous êtes sur France Inter, avec un chat dans la gorge. Il est parti.
Je suis là.
Oui, vous êtes là.
Je vous rattrape si un problème.
Merci Alex. Ce deuxième sujet en compagnie d'Isabelle Mergaud, qui dit lanceur d'alerte, dit qu'une entreprise peut soudain se coller une très mauvaise réputation. Alors quand on bosse pour Dassault, Monsanto ou Lafarge, c'est pas toujours facile à vivre socialement. Il reste une solution, que les employés se dressent contre le manque d'éthique de leur salaud d'employeur.
Allô ? Allô ? Quoi ? Une grève ? Eh ben alors, il m'en faut plus que ça. C'est mon usine qui s'est mise en grève.
Ça va aussi, je me mets en grève ! Il va là ! Là ! Là ! Là !
Qu'est-ce qu'il dit ? Il travaille ? Rien ! Allô ? Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez ? Non ! Je vous dis non ! Alors, écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude. Vous promettez tout et moi, je ne donne rien.
Rabbi Jacob. C'est un article à lire dans Society, en ce moment en kiosque, sur les salauds de patrons.
Vous qui bossez pour Laurent Ruquier. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, sujet ?
Mon patron est très généreux.
L'idée, c'est... Alors déjà, on va faire un test. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui bossent pour un salaud ?
Est-ce qu'il y a des gens en public qui bossent ?
A priori,
7h un vendredi, de pas l'heure des
manches. Ah bah non, bah c'est encourageant, personne n'a
vu. Si, ouais. On a vu des doigts. Oh.
Ah. Mais attendez, vous venez de dire qu'il y avait des caméras partout, ils ont...
Non, non, vers nous, pas vers eux.
Est-ce qu'il y a dans le public des salauds de patrons ?
Il n'y a pas de caméra dirigée vers vous, vous pouvez lever,
vous pouvez y aller.
Il y a deux salauds de patrons que j'ai repérés.
Ouais. Il là, j'ai 3 ou 4.
Voilà, ouais. Et c'est vrai que si vous croisez quelqu'un qui bosse pour Monsanto, pour Lafarge, qui bosse avec la Syrie, qui collabore un peu avec Daesh, c'est une enquête du Monde qui l'a révélé il y a pas longtemps, et Lafarge qui est aussi candidat pour construire le mur de Donald Trump. Dans ces cas-là, apparemment, ces gens, d'après l'article, commencent à être jugés. Il y a une forte défiance, évidemment. Vous êtes de ceux qui sont curieux de savoir comment ça se passe ou qui trouvent que
il n'y a rien d'étonnant de voir qu'on est gouverné par l'argent, de toute façon. Voilà, c'est le nerf. C'est, voilà, c'est,
alors,
c'est
il y a être gouverné par l'argent, mais il y a aussi avoir une forme d'éthique qui est plus ou moins poussée.
Où est-ce que vous avez vu l'éthique ? L'éthique, il y a des tics sur mon chien, c'est tout. Voilà.
Mais admettons que vous bossiez pour Bolloré, par exemple, et que sortent des affaires sur ce qui puisse se passer en Afrique. Est-ce que vous diriez, tiens, je vais peut-être aller postuler à RTL, à Inter ou ailleurs ?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Non, c'est pas du tout une bonne question.
C'est précisément la seule question qu'il fallait poser.
Alors, moi, j'ai écrit ce livre à un escargot tout chaud.
À qui appartient Grasset ? Non, moi non plus.
Bon, bah écoutez, on va passer. Alors, on va y aller alors sur le roman.
Écoutez, ah oui.
C'est un sujet à la con de Society aussi, donc à pas
non,
faire des sujets à la con.
Non, mais c'est un sujet. Pas du tout. Si Isabelle Mergaud n'avait pas fui la question.
Je crois que c'était mon roman qui était un sujet à la con.
Non, non, non. De toute façon, on n'a pas compris le sujet, donc on peut pas le dire.
Non, elle a dit exactement. On va passer maintenant au sujet du livre d'Isabelle Mergaud. C'était un sujet à la con.
Non, Society. Celui qu'on vient de traiter.
D'accord, ok.
Non, mais je l'admets.
Faut mettre des points.
Oui, vous avez raison. Je vais mettre des respirations. En revanche, maintenant, un beau sujet.
Oui,
voilà, évidemment, la littérature et le roman d'Isabelle Mergaud, bien sûr.
Voilà, parce que, alors, à cette heure où les choses ont tendance à se compliquer sévèrement, hein, on vient encore de le voir, je ressens un besoin fulgurant de simplification de choses binaires. Alors, je propose qu'à partir de maintenant, on divise le monde en deux. Ceux qui, en termes de braquage, choisissent l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison 1968 et ceux qui mettent plus haut que tout un après-midi de chien de Sid des Lumettes 1975. Alors, à ma gauche, l'affaire Thomas Crown, l'histoire d'une réussite, hein, c'est un braquage réussi, où le braqueur Steve McQueen est supérieurement intelligent, riche et bien sapé, et amoureux de Faye Dunaway, très bien sapé également, et très futé. À ma droite, un après-midi de chien, donc par une chaleur terrible, un type, Al Pacino, commet le braquage le plus pourri de l'histoire des braquages. Un de ses associés se barre carrément dès le début, l'autre n'a pas plus d'idées que le chat, il n'y a pas de cash dans le coffre, et l'intégralité de la police de New York est là pour arrêter un type qui ne sait même pas se servir de son arme. Eh bien moi, je préfère les gens qui ratent. Surtout quand ils font un braquage par amour, ce qui est le cas d'Al Pacino dans Un après-midi de chien, et vous aimeriez bien savoir c'est qui l'amour d'Al Pacino, eh bien je ne vous le dirai pas, vous avez qu'à regarder le film. Dans le livre d'Isabelle Mergaud, on ouvre aussi avec un braquage de bijouterie, et assez vite, on arrive à... Tu vas m'ouvrir ce coffre ou je te bute. Buter, répond la bijoutière, qui pourtant ne fait pas la fière, puisque de fierté, elle n'a plus, je vous dis pas pourquoi, vous avez qu'à lire le livre. Alors, ça sent pas le fiasco, ça ? Et en fait, ça sent le fiasco parce que ça sent l'absurde. L'absurde qu'on a dès le titre, hein, un escargot tout chaud. Cette comptine enfantine qu'on a tous apprise, vous savez, la souris verte qui courait dans l'herbe, attrapée là par la queue, plongée dans... Ça a l'air parfaitement absurde, ça l'est pas du tout. Je me suis renseignée, ça date de la guerre de Vendée. La souris verte, c'est l'officier vendéen qui avait souvent une tunique verte. Donc on le poursuivait. Ensuite, on le noyait à moitié, hein, trempé dans l'eau. Ensuite, on le cramait dans de l'huile, trempé dans l'huile. Et après, forcément, il ressemblait à un escargot tout chaud. Mais c'est marrant que quand t'es petit, rien te semble bizarre ou absurde.
Vous confirmez, Isabelle Mergo?
Je ne me suis pas renseignée, non.
Parce qu'en fait, toutes les comptines enfantines ont toujours l'air de parler de choses rigolotes ou absurdes. À chaque fois, ça parle de drame absolu. La guerre, le viol, l'inceste. À chaque fois, ça loupe pas. Plus ça a l'air crétin, plus c'est affreux. Le titre « Un escargot tout chaud » n'est absolument pas hasardeux ou aléatoire. C'est un thème récurrent dans votre roman, les fables saignantes racontées aux enfants pour qu'ils aient une vraie enfance, c'est-à-dire pleine de cauchemars. Hein, au hasard, le père qui change l'histoire du petit chaperon rouge et qui remplace le loup par un lapin parce qu'il voulait pas que sa petite fille fasse des cauchemars. C'est mignon, mais c'est stupide. Ou encore, le coup célèbre de la culotte propre. Quand on est une petite fille, on nous rebat les oreilles qu'il faut toujours avoir une culotte propre. Au cas où on est un accident et que les pompiers viennent et qu'ils voient que vous n'avez pas une culotte propre. Vous la voyez l'absurdité de la condition de petite fille ? Bref, un autre livre, à part un autre adepte du ratage, Francis Scott Fitzgerald, Youpi, Youpi, figurez-vous que c'est un recueil de nouvelles inédites qui s'appelle « Je me tuerai pour vous ». C'est le même éditeur, c'est chez Grasset. Alors avant les nouvelles de Fitzgerald, c'était les amours naissantes et déjà confites de délitement entre des jeunes filles ravissantes et téméraires et des jeunes hommes languissants. Là, on arrive à une autre époque de la vie de Fitzgerald. L'âge du jazz a foutu le camp, le temps des emmerdements divers et variés est arrivé, la grande dépression, Zelda, son grand amour est chez les fous, l'argent manque. Il est passé de mode et il doit danser sur la fine ligne entre art et commerce. Sa nouvelliste de talent, Fitzgerald, met là carrément ce recueil de nouvelles inédites. Il est marqué par ce nouveau temps. Il est toujours plein de mélancolie, mais il est encore plus plein d'ironie. Et même, il y a carrément une veine comique. J'ai noté une phrase pour vous, Isabelle, qui clôt la dernière nouvelle. C'est le dernier chapitre. Une jeune fille qui voit passer son amoureux avec une autre femme à son bras. La personne qui accompagne la jeune fille dit « Ça va, vous n'êtes pas trop jalouse ?» Et elle répond « La jalousie ne fait pas partie de mon équipement. On m'a sans doute donné une bonne dose de vanité à la place. » Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup. Je rappelle les références de l'ouvrage d'Isabelle Mergo, « Un escargot tout chaud » paru chez Grasset.
Parce que Rose, à un moment, pourrait être jalouse.
Oui, elle est jalouse. Elle est jalouse.
On va aborder ce dernier sujet avec vous, Isabelle
Mergo. On donne des pistes de plus en plus. Les gens vont comprendre le livre d'ici la fin de l'émission.
Vous êtes toujours au masque et la plume. Sur tout de suite, du jazz.
Justement, on a appris d'où ça venait, un escargot tout chaud oui, et oui. La souris verte. On ne savait pas d'où ça venait. C'était peut-être. Moi, je crois que c'était un verset du Coran au départ.
Troisième sujet. Moi, on m'a dit que c'était sexuel.
Ah bon ?
Ouais, que c'était.
Je l'attrape par la queue, expliquez.
Tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau, ça devient tout rikiki, voilà, je sais pas.
Non, mais ça, c'est l'inverse de la sexualité. Ça n'a pas le bon résultat, en fait.
Hein ?
on peut en faire le troisième sujet si vous voulez. Mais sinon, celui qu'on a choisi, c'est comment s'engager politiquement sans se fouler. Ah bah là, d'un coup, c'est un sujet 3 qui vous intéresse. Hein. Vous voulez savoir comment on fait? Eh bien, ça commence par porter un t-shirt avec la figure d'un grand révolutionnaire, un t-shirt ou autre chose. Le tapis de bain du Che, la housse de couette du Che, Asta Siempre, les Fatales Picards, qu'on aime beaucoup. C'est un article à lire dans Cosette. Le titre ne veut rien dire, hein, mais je vais vous le dire quand même. C'est le slacktivisme qui viendrait de slack mou. C'est le fait de s'engager à peu de frais, de par exemple tweeter son indignation, d'être un peu l'activiste du dimanche, de porter des slogans sur les t-shirts.
De faire des blagues à la radio.
Oui, voilà, exactement. Ça court les rues aujourd'hui, les fringues sur lesquelles il y a des messages, des slogans. L'engagement à peu de frais, vous en pensez quoi, vous, Isabelle Mergaud ? Est-ce que c'est déjà un début de quelque chose ? Ou c'est une forme de désengagement aussi, on
se dit, bon, c'est une forme totale de désengagement et de pas se mouiller et puis de croire qu'on a fait son devoir. Et effectivement, ça porte très bien son nom, quoi, de l'activisme mou. C'est d'ailleurs, c'est même antinomique parce que actif, c'est pas mou, quoi. Mais oui, il y en a de plus en plus. Allô. Non,
parce que ça rebondit avec le coup de l'escargot tout chaud.
Ah, on est dans la mollesse.
Ce serait quoi l'engagement alors, le vrai ?
Faut se désengager de notre vie personnelle pour pouvoir s'engager. C'est donc laisser beaucoup de choses. C'est très courageux.
C'est un sacrifice alors forcément, un engagement ?
Forcément, oui. Moi je crois, oui. Mais moi je n'ai pas ce courage. Mais il y en a qui l'ont et j'ai une admiration sans borne quand vous abandonnez tout pour aller au Cambodge, pour aider les enfants. Moi, je connais quelqu'un comme ça qui a tout laissé, qui a tout plaqué.
Pour se présenter, c'est... pour être candidat, pour être président de la République, par exemple. Qu'on voit un Manu Macron ou des gens qui disent « Allez, je plaque tout et je tente ma chance. »
C'est beau, c'est beau.
Chapeau,
c'est
quand même.
J'ai du courage.
Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on travaille toujours plus, qu'on est happé par des tas de choses et que tout ça est fait aussi, on s'endort nous chacun et aussi la société nous endort et nous empêche d'avoir ces espaces de liberté. On a de moins en moins de loisirs, donc forcément on a de moins en moins de temps de prendre cet engagement. Vous vous sentez cet endormissement, Isabelle Mergaud ?
Je suis pas une ancêtre, hein. Je sais
c'est
pas
ce
comment,
qu'elle voulait dire. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Vous qui avez connu Louise Michel, par exemple, elle était comment en vrai ?
Je suis un peu plus vieille que vous, c'est vrai,
mais pas tant.
J'ai connu la couleur, hein, quand même. Oh là, vous me posez des sujets graves. Moi, je pensais que j'allais parler de mon bouquin là-dessus. Moi, j'ai pas grand chose à dire.
Si vous parvenez à nous le pitcher en 30 secondes, on vous les donne.
Autour de la table, par exemple, Cosette dit ce grand moment d'humanisme en tweetant 140 caractères contre la barbarie. C'est dénoncer un activisme tout en mollesse et m'as-tu vu sur les réseaux sociaux ?
Moi, c'est ce qu'on reproche déjà aux bobos, c'est-à-dire que c'est déjà pas mal de faire ça et puis ça fait de mal à personne et c'est un engagement. Alors certes, c'est pas partir donner toute son âme et toute sa vie à une cause, mais c'est déjà la petite goutte, c'est pas la mer.
Et puis quand par exemple Beyoncé dans ses concerts, elle met un t-shirt où il y a marqué féministe. Elle fait que ce mot qui, il y a encore 10 ans, était un peu malvenu et moche, tout à coup, redevient à la mode.
Enfin, mais juste un t-shirt en même temps, en termes de...
C'est déjà pas mal. Un t-shirt qui est mis en vente, et donc le capitalisme récupère les slogans pour les vendre.
Mais n'empêche que...
Et un t-shirt fait par des enfants.
Oui, mais n'empêche que pour toute une génération de gamines, le mot féministe, elles l'entendent, et c'est déjà pas mal. C'est une petite chose.
Voilà.
C'est vrai.
Sinon, l'After Steve vendredi, Isabelle Mergaud.
Vous avez de la chance d'être venue vendredi parce qu'il y a de la musique, il y a de la chanson, il y a du Frédéric Fromet qui est derrière vous et qui arrive. Bonjour Frédéric Fromet. La chanson inédite du jour est dans ses mains. De quoi allez-vous nous chanter ?
Eh bien, cette semaine, nous avons appris qu'Olivier Besancenot était devenu rappeur.
C'est vrai.
Il paraît que ça a donné des idées à Madame Fillon qui se lève tous les matins à 6h30 pour imiter Diams. Laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. J'suis pas d'humeur à rembourser la dette. Laisse-moi kiffer le canard enchaîné. J'm'en bats les steaks. Et le cabinet noir, on va lui faire sa fête. Oh 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 oh, laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. J'suis mieux payé que tout le peuple grec. Bande de losers, j'ai même pas peur d'être condamné direct. Comme une vulgaire caissière de supérette. Le petit numéro de Poutou sur l'immunité ouvrière. Ça n'empêche pas d'avoir du goût à quand l'élégance ouvrière. Même un petit candidat doit avoir un peu d'hygiène. Au moins c'est pas mon François qui s'habillerait chez H&M. C'est très méprisant de se moquer des hommes qui portent une cravate. C'est grave relou de jalouser nos mains fines et délicates. Vous pensez arriver à quoi, vous les pauvres paluches épaisses? C'est nous qui vous faisons un doigt quand nous piquons dans la caisse. Laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. c'est pas qu'on soit vraiment malhonnête. Laisse-moi kiffer, on prend les espèces, les cartes bancaires, les chèques. Notre passion, c'est les pépettes. Oh, 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 laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. J'suis pas d'humeur à finir au pommettes. Nique les juges à Fleury-Mérogis ou à Fresnes, avec pour co-détenu Marine Le Pen. Faites attention à vos gros mots ou François vous fout un procès. Il a la justice dans la peau. Attendez de voir le 7 mai. On nous a mis en examen, nous les agneaux innocents. Vous ferez moins les malins quand François sera président. Laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. Déjà que nous n'arrivons pas à mettre, on veut du cash, de l'argent de côté. Nous sommes à sec, compte en banque et même pas un copec. Non, 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 laisse-moi kiffer la thune avec mon mec. On est comme des gamins devant des bons becs. On a trop le swag, le 8 mai, faudra pas faire la tête quand on passera parmi vous pour la quête.
Frédéric Promet, en direct du studio 105. Merci Frédéric. Isabelle Mergo, un
Frédéric
escargot.
Frédéric, un rappeur à guitare quand même. C'est un rappeur à guitare, c'est très rare.
C'est très très rare. Isabelle Mergo, un escargot tout chaud, paru chez Grasset, votre roman. Il est aussi empreint d'humour. Vous ne pouvez pas vous empêcher, en écrivant, bah,
même,
d'avoir cette distance.
Il est même... bon, oui, enfin, il a beaucoup... oui, oui, je, bah, non, je ne peux pas... j'aimerais bien écrire sérieux, puis à un moment donné, ça dérape.
Pourquoi vouloir?
Oui, pourquoi vouloir?
Bah, oui.
Non, non, oui, bah, j'ai avant tout...
Vous n'arrivez pas à être chiante?
Si, si. Si, si, ça, vous ne vivez pas avec moi.
En tout cas, ce n'est pas le cas. Un escargot tout chaud, paru chez Grasset. Merci beaucoup, Isabelle Mergo, d'avoir passé ce moment avec
merci
nous.
À
merci à toute l'équipe. Hein, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem, qui prépare l'émission avec Jim, notre stagiaire. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation et toutes les équipes techniques du Studio 105 et en général ici à France Inter. Merci beaucoup. Voici le mot de la fin à tous ceux qui envisagent de voter utile.
Non, la stratégie est excellente.
C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.